ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mercredi 25 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Ça vaut le détour, notre dernière cette semaine si vous nous écoutez en direct. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clé CVLD ou sur Twitter, @canal_m. Vous pouvez toujours nous soumettre des sujets d'intérêt ou réagir aux propos de nos invités. Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er au 7 juin, le mouvement PHASE présente la conférence de l'initiative citoyenne Québec accessible qui portera sur le mouvement de défense des droits des personnes handicapées au Québec et sur la revendication d'une loi cadre sur l'accessibilité. J'accueillerai Maître Mélanie Bénard, conférencière, et Madame Marie-Ève Veilleux, cofondatrice de Québec Accessible. Mes invités mettront en relief le chemin parcouru, mais aussi les bons coups des autres provinces desquelles le Québec devrait s'inspirer. À suivre à 12h45. Le transport est souvent une question épineuse pour les personnes avec des problèmes de mobilité. Pour plusieurs personnes handicapées, posséder un véhicule adapté à ses besoins symbolise une grande liberté. TVR Technologies, à Repentigny, offre justement un service d'adaptation de véhicules pour les personnes à mobilité réduite. On en parle avec M. Francis Maheu, propriétaire de l'entreprise, en deuxième partie d'émission. On discute aussi avec Mme France Geoffroy, fondatrice et directrice artistique de Corpuscule Danse, compagnie spécialisée en danse intégrée. Les 2 et 3 juin, la compagnie présente son spectacle étudiant multigénérationnel « Raconte-moi un souvenir » qui met en scène plus d'une trentaine de danseurs avec et sans handicap. Spectacle de danse intégrée, de poésie et d'ombre chinoise au menu. Mais tout d'abord, avant de parler d'adaptation de véhicules, on va parler d'adaptation de cuisine. Vous pensez à des rénovations ou une nouvelle construction? Pensez aussi à l'accessibilité universelle. C'est le concept que met de l'avant la compagnie Zirka, basée à Saint-Hubert, avec sa cuisine universellement accessible. J'accueille dans nos studios le président de Zirka, M. Jeff Beauregard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Canal M.
Merci.
C'est une première dans nos studios et c'est pour parler de ce concept vraiment de la place que prend l'accessibilité universelle dans la conception d'une cuisine.
Parfait.
Et on vous a découvert, entre autres, via une vidéo YouTube qui présente vraiment votre concept. Vous l'avez travaillé d'ailleurs avec un chef à la maison. Pour démontrer, c'est Monsieur Chef Brian Hill du concept Chef à la maison, pour démontrer vraiment l'efficacité pour tout type de personnes, en fait. On le voit travailler debout, on le voit travailler assis, parce que c'est ce que vous proposez dans votre cuisine.
Oui, dans le fond, il nous a aidé beaucoup à développer le côté handicap visuel qu'on n'avait pas vraiment pensé à développer. Mais dans le fond, notre cuisine s'adapte très bien aux handicaps visuels, handicaps physiques. Puis, on a eu deux ans de recherche et développement qu'on a terminé avec le vidéo de M. Brian Hill qui nous a permis d'améliorer les derniers petits détails qui restaient. Puis là, on s'est lancé il y a environ quelques mois pour commencer à offrir le concept au grand public. Puis, dans le fond, on a fait quelques cuisines à date. Les gens sont très, très satisfaits. Ce qu'on essaie surtout de faire, c'est vraiment garder l'impact visuel d'une cuisine haut de gamme dans la cuisine adaptée. Puis autant que ce soit pour une personne à mobilité réduite ou une personne qui rentre dans une nouvelle maison, la cuisine est aussi pratique et j'aime l'appeler un peu cool, mm-hmm. pour dire un peu gadget pour toute la population vraiment.
Tout à fait. Quels sont justement, si vous pouvez nous parler de certaines installations dans la cuisine?
Dans le fond, notre spécialité, c'est vraiment le développement d'un meuble rétractable breveté qu'on a développé il y a quelques années, puis qu'on a finalement, qui est devenu le sens de notre concept. qui permet d'avoir une cuisine adaptée avec un espace pour les jambes, mais seulement aux besoins. Lorsque la cuisine n'est pas nécessaire pour une personne qui veut travailler assis, la cuisine ressemble à une cuisine standard, haut de gamme, ce qui est un gros plus comparativement à ce qu'il y a sur le marché présentement. Ce meuble-là nous a amené aussi à créer un évier adapté qui est beaucoup plus accessible que ce qu'il y a présentement sur le marché. C'est nos deux produits forts. Puis le reste, on travaille beaucoup avec Etich, qui nous permet d'éliminer les mécanismes coûteux qu'il y a présentement sur le marché, comme les comptoirs ajustables, les armoires de haut qui descendent, qui sont extrêmement coûteuses, qui ne sont pas nécessairement obligatoires dans une cuisine si on prend les bons accessoires. Ce qui nous permet de ne pas être aussi dispendieux qu'une cuisine adaptée, qui est présentement sur le marché, mais pourtant on est plus efficace.
Et d'où est venue cette idée-là de travailler sur l'accessibilité universelle en designant une cuisine?
Ça a vraiment été un cheminement personnel du fait que je suis en construction avec mon père depuis que j'ai 15 ans. J'ai eu un accident de sport extrême. Je marche aujourd'hui avec une canne. Puis en même temps, ma mère est tombée malade, était designer. Moi, je suis dans la construction. Et on a pris 2 ans à développer, les deux en arrêt de travail, vraiment quelque chose. On s'est dit, on va s'asseoir puis prendre le temps de développer une cuisine vraiment adaptée parce que ce qu'il y a sur le marché, même les personnes à mobilité réduite, la plupart du temps n'en veulent pas à cause du look, l'image que ça donne. On a essayé de régler pas mal tous les problèmes là-dedans. Puis c'est ce qui nous a amené là, vers le concept de cuisine universelle. On a passé avec une cuisine adaptée au début, mais lorsqu'on a vu que vraiment même les chefs professionnels avaient une facilité de travailler, super, on a eu des très, très bons commentaires des chefs professionnels n'étant pas mobilité réduite. Alors, c'est pour ça qu'on considère vraiment le concept universel. Ça évite aussi la perte de valeur des domiciles lorsqu'il y a une rénovation d'adaptation. Lorsque les nouveaux locataires ou nouveaux propriétaires rentrent dans la maison, il y a seulement 2 morceaux à changer, puis la cuisine devient une cuisine standard.
Quels sont ces 2 morceaux qu'on peut
changer? C'est les meubles rétractables. Dans le fond, on enlève la partie qui est rétractable, on met une armoire complète, puis la cuisine devient pratiquement standard, dépendant du client.
Et c'était justement, vous évoquez beaucoup les limites que vous voyez dans ce qu'il y a d'offert actuellement sur le marché, au niveau plus des cuisines adaptées qui sont faites après. Donc, on a la cuisine standard et on ajuste selon les besoins du moment. Qu'est-ce que vous trouviez qui cloche à ce niveau-là et que vous avez réussi à réparer?
Ce qui nous a vraiment donné la possibilité d'avoir le concept de cuisine universelle, je dirais que c'est les électroménagers de tiroir qui ont vraiment aidé la technologie des nouveaux électroménagers qui ne nous permettaient pas avant de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Dans le fond, une personne handicapée qui avait une cuisine adaptée de manière standard qui est venu voir ma mère qui travaillait dans l'électroménager. C'est vraiment là que le déclic côté technologie. Autant Etich avec leurs accessoires de tiroir que les électroménagers de tiroir fait vraiment un tout qu'il y a 5 ans, on n'aurait pas pu faire.
Donc, c'est pour ça aussi que c'est récent. C'est parce que c'est toute cette avancée technologique-là qui vous a permis. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein? On parle de construction, de design. C'est une histoire familiale. C'est vraiment intéressant. J'aimerais qu'on aborde cet aspect de l'évier et la cuisinière avec un robinet intégré.
Oui.
Ça me fascine. C'est vraiment pour rendre, en fait, tout ce qui est cuisson qui nécessite de l'eau.
C'est ça, c'est vraiment pour éviter les brûlures, éviter les transports inutiles. Le robinet à la plaque de cuisson, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le commercial, qu'on voit pas nécessairement dans le résidentiel, mais on a une réponse qui est vraiment extrêmement positive. La plupart des gens qui voient ça en veulent un, c'est vraiment un accessoire qu'on risque de devenir standard, nous, dans notre concept. Puis on pensait aussi développer peut-être une petite passoire à côté de la plaque pour vraiment essayer d'éviter les déplacements le plus possible pour une personne qui, justement, en position assise, se déplacer avec des chaudrons remplis d'eau, ça peut être assez dangereux, dépendant de la température.
Tout à fait, surtout lorsque les mains sont déjà mobilisées. Et même, même si c'est une personne debout, si on a des problèmes de dextérité fine, ça peut tout à fait combler nos besoins. Pensez-vous qu'avec le vieillissement de la population, on va être amené de plus en plus à réfléchir à nos espaces de vie comme ça?
Bien sûr, dans le fond, c'est un petit peu le rêve de l'entreprise. C'est vraiment de viser les résidences pour personnes âgées. pour construire une cuisine qui est adaptée dès le départ, dès la construction, pour que les gens ne soient pas obligés de faire l'adaptation dans leur domicile, mais bien sûr qu'ils puissent aller en location, c'est-à-dire rendu à un certain niveau, on peut aller louer dans une résidence, puis la cuisine est adaptée, autant cuisine salle de bain. Dans le fond, dès le départ, puis si jamais la personne n'est pas à mobilité réduite, les cuisines sont quand même très belles, très pratiques. Dans le fond, c'est vraiment le rêve d'entreprise, c'est de le rendre le plus accessible possible dans le marché de la résidence, étant donné que d'ici 2050, c'est 25% de la population qui va avoir 65 ans et plus. Alors, c'est vraiment notre marché cible.
Oui, le marché.
Le marché
que vous visez. Est-ce que, vous l'avez évoqué brièvement, la salle de bain? Donc, est-ce qu'on pense déjà à d'autres pièces à regarder?
La salle de bain aussi, on ne l'évoque pas trop à cause qu'il y a beaucoup de bonnes solutions sur le marché. Je dirais, on a évolué le côté cuisine, côté salle de bain, on en fait comme tous les autres, mais il y a beaucoup de bonnes solutions déjà disponibles. On a quelques petits trucs de plus, comme on a les toilettes accrochées au mur à la bonne hauteur au lieu d'avoir des, comment dire, un spacer, si on peut dire.
Un siège surélevé,
ouais,
je pense
c'est
que
ça.
C'est comme ça qu'on pourrait le nommer.
Quelques petites choses comme ça, mais on en fait comme la plupart là, qu'il y a sur le marché.
Et toujours avec un souci d'esthétisme.
Oui,
aussi.
C'est ça. Mais il y a quand même des, comme je dis, il y a des bonnes solutions pour des belles salles de bain bien adaptées avec les nouveaux bains, les nouvelles douches. Quand même beaucoup de bons produits.
Vous avez pu faire ça, bon, vous êtes inspiré de différentes technologies, même du milieu commercial, où vous avez amené les bonnes idées dans le milieu plus familial, plus personnel, mais il faut le dire aussi, elle respecte toutes les normes qui sont déjà en vigueur ou qu'on doit respecter lorsqu'on fait l'adaptation d'une cuisine.
Et en plus de respecter les normes, on a quelques nouvelles normes qu'on aimerait beaucoup apporter nous-mêmes. Dans le fond, on a notre petite bible de mesure qui a, on a ajusté les normes en fonction du goût du jour puis des nouvelles technologies. On aimerait beaucoup apporter l'idée au gouvernement pour essayer de faire, donner un peu de fraîcheur aux normes là, pour que ça soit au goût du jour. Vraiment.
Tout à fait. En terminant, M. Beauregard, est-ce que, on voit que vous êtes une toute nouvelle entreprise sur le marché. Vous avez le vent dans les voiles. Vous offrez deux types de services. Vous offrez carrément le clé en main. Donc, pour toute la cuisine, si on démarre une nouvelle construction, vous offrez aussi le service personnalisé. Combien on peut penser que ça peut coûter s'offrir une nouvelle cuisine comme ça?
Je dirais que c'est environ 20 à 25 plus dispendieux qu'une cuisine standard, mais ça reste un petit peu moins dispendieux qu'une cuisine adaptée présentement sur le marché. On est un petit peu moins dispendieux que la cuisine qui est présentement adaptée, mais on est environ 20 à 25 plus cher là, qu'une cuisine standard. C'est la moyenne.
Est-ce que les personnes qui feraient appel à vos services et qui sont admissibles à un programme gouvernemental peuvent combiner les subventions?
Bien sûr, oui. On a déjà fait quelques programmes PAD. Dans le fond, avec le gouvernement, ça s'est passé très, très bien. On a même une petite porte pour justement aller discuter des normes plus en détail là, pour voir ce qui est possible de faire, peut-être même raccourcir les délais qu'il y a avec le programme PAD, qui est un gros problème présentement sur le marché.
Tout à fait, effectivement. Merci beaucoup vraiment pour cette belle initiative. En terminant, je vous invite à nous donner le site web si on veut avoir plus d'informations sur vos produits.
C'est le www.zirca.ca. Z-I-R-C-A.ca.
Merci beaucoup, M. Jeff Beauregard de Zirca à découvrir. Et on va mettre aussi la vidéo YouTube sur la page Facebook de l'émission plus tard aujourd'hui. Merci.
Merci.
Je reviens chez moi. Oui, je sais, j'ai pas trop changé. Y'a l'odeur de la pluie sur les rues qui m'attend. Je reviens, la vie n'a pas changé. Je reviens chez moi. Je reviens, cette fois fais mon entrée. Y'a les cette fois je vais rester.
Montréal XO de Laurence Nerbonne, anciennement de Hôtel Morphée, tiré de son album XO. On pourra la voir au Francofolie prochainement. C'est ce qui nous amène tranquillement vers notre segment culturel. Et je joins au téléphone Madame France Geoffroy, fondatrice et directrice artistique de Corpuscule Danse, compagnie spécialisée en danse intégrée. Bonjour France.
Bonjour.
France, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à notre première émission de la saison, le 25 janvier. Vous étiez en période de recrutement pour votre spectacle « Raconte-moi un souvenir » qui sera présenté la semaine prochaine, les 2-3 juin. Comment on se sent à une semaine de la première?
Très excitée, très exaltée et très fière aussi d'avoir... côtoyer des gens fantastiques pendant 15 semaines et d'arriver à l'aboutissement d'un projet extraordinaire, multigénérationnel. Et c'est ça, moi je suis vraiment contente avec toute mon équipe d'arriver là enfin là aux représentations la semaine prochaine.
J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour revenir sur ce qu'est Corpuscule Danse et ce qu'est surtout la danse intégrée pour les auditeurs qui ne le sauraient pas.
En fait, Corpuscule Danse est une compagnie qui existe depuis 2000 et c'est une compagnie de danse intégrée, donc qui a deux volets. Le premier qui est le volet performance qui s'inscrit dans le milieu de la danse contemporaine professionnelle. Alors, on fait des spectacles avec différents chorégraphes québécois reconnus et il y a le volet enseignement qui se situe plus dans le milieu du loisir communautaire, bien qu'on attire de plus en plus de danseurs, de formateurs, d'enseignants du milieu professionnel de la danse. Et c'est ça, on enseigne aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Et peut-être pour définir un peu la danse intégrée, ben c'est vraiment une discipline qui jumelle les personnes avec et sans handicap. C'est de la danse contemporaine un peu qu'on peut retrouver dans des classes régulières, mais j'ai pris soin d'adapter vraiment chacun des exercices afin que tout le monde puisse participer à sa façon, malgré ses limitations. On se concentre beaucoup sur les possibilités de nos participants, puis voilà. C'est un peu ça.
Et raconte-moi un souvenir, vous l'évoquez brièvement, c'est un spectacle donc de votre volet enseignement qui est multigénérationnel. Qu'est-ce qu'on entend exactement?
En fait, c'est que j'ai une pratique en enseignement auprès des adultes depuis maintenant, c'était quand même un bout depuis 2002 et tranquillement pas vite, il y a peut-être 4 ans, j'ai commencé à enseigner aux enfants. Et toujours dans un souci d'innovation et de vouloir comme amener toutes mes étudiants sur scène, j'ai décidé de faire un gros spectacle, puis justement de donner la chance autant à des jeunes enfants, des adolescents et des adultes de partager un processus commun et c'est ça, de les amener sur scène. Et je me suis associée à l'Académie de danse d'Outremont pour ce projet-là avec Irène Galesso qui est spécialisée pour justement faire des spectacles avec différents âges au sein du même processus. Et c'est un peu ça. Raconte-moi un souvenir, c'est pas juste non plus un spectacle de danse intégrée. J'ai voulu amener une petite touche particulière. Donc, les élèves ont bénéficié d'un atelier d'ombre chinoise. Et chaque transition dans le spectacle amène à un ombre chinoise. Puis, on a travaillé beaucoup sur le thème du souvenir. Alors, on a fait un atelier d'écriture et les élèves aussi là, ont un autre défi supplémentaire, celui d'amener une touche théâtrale, une touche poétique là, dans le spectacle.
Qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir justement mélanger ces différentes formes d'art?
Bien, c'est toujours dans un souci de faire découvrir d'autres types d'art à mes étudiants. Puis je trouvais ça intéressant, les ombres chinoises, parce que j'avais une de mes étudiantes qui était qui en faisait, puis puis j'ai regardé ce travail-là, puis je me suis dit, ah, ça pourrait être un beau une belle initiation pour mon les personnes qui pour mes élèves, pour les participants, de toucher à cette dimension-là. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu une formation de 25 heures, là, on effleure le sujet, mais c'est quand même je trouve que c'est une belle porte ouverte aussi, une découverte pour les gens qui étaient là lors de l'atelier d'ombre chinoise.
Est-ce que c'est aussi une découverte de votre part d'intégrer justement tous ces éléments différents et de rendre le spectacle encore plus poétique? Est-ce que vous avez appris dans cette démarche-là?
Absolument. J'ai appris que c'était compliqué. Et j'ai appris que aussi, c'est vraiment, ça l'amène encore plus, ça rehausse le spectacle. Puis c'est sûr que moi-même, au sein de ce processus-là, quand on veut innover, ça veut dire aussi qu'on est en processus d'apprentissage. Alors, j'ai encore, j'ai une corde de plus à mon arc et je suis très, très fière de ce projet-là parce que ça représente le plus gros projet du volet enseignement de la compagnie. Et je suis très heureuse que mes collaborateurs se soient joints à moi et aux éclairages. On a Lee Anolt qui est là, qui travaille avec la compagnie là depuis 2-3 ans. On a Joanie Douville aussi qui est responsable là, des ombres chinoises. Alors, on est vraiment une super belle gang. Il y a aussi la chorégraphe enseignante Élise Hardy qui est avec nous aussi. Alors, c'est vraiment une belle aventure. J'ai très, très hâte que les participants puissent savourer là, ces 2 jours en théâtre. Peuvent voir là, vraiment la réalité là, de passer d'un processus de recherche, de création là, jusqu'à l'aboutissement sur scène. Vraiment, je suis très fière de mes participants.
Donc, on a hâte de passer du studio de répétition à la scène. C'est la semaine prochaine. Les billets sont déjà en vente. Il y a déjà de la promotion, entre autres via les médias sociaux. Qu'est-ce que, rapidement, si on veut avoir les infos pour pouvoir aller voir ce spectacle qui est présenté seulement 2 jours?
Oui, oui, absolument. Mais c'est quand même un défi de présenter ça 2 jours. c'est ça. Ben, les gens, ils peuvent... en fait, c'est au studio théâtre Alfred Laliberté. C'est à l'UQAM. Le spectacle, c'est les 2 et 3 juin à 19h30. Ils peuvent appeler à la billetterie de l'UQAM au 514-987-3456, poste 3456. Les billets sont au coût de 15 $. Et moi, j'invite vraiment la communauté en général, les intervenants en réadaptation, les techniciens de loisirs à venir vraiment voir là, cette belle réussite parce que je trouve que on parle beaucoup de sport adapté, mais les arts, c'est vraiment une discipline extraordinaire pour l'épanouissement des personnes handicapées. Alors, c'en est la preuve. Venez voir ça en grand nombre.
Justement, Corpuscule Danse se positionne en chef de file en ce qui a trait à la présence de personnes en situation de handicap dans les arts, dans le milieu des arts performatifs particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour Corpuscule?
Oui, on va entamer bientôt une recherche qui s'appelle Quadruptique, qui va se faire avec 4 chorégraphes québécois. Dont Dave Saint-Pierre, Lucie Grégoire, Déborah Don et Sarah F. Grant. Alors, on se prépare tranquillement à faire cette recherche-là qui va être diffusée sur un blog qui devrait là être en ligne là au début de l'automne. Et puis, c'est sûr que la vision à long terme, c'est de poursuivre autant le volet enseignement que le volet performance. Mais à court terme, là, c'est de terminer raconte-moi un souvenir et d'aller vers une nouvelle recherche avec d'autres chorégraphes, d'autres interprètes, dont Maxime Despomerleau, qui sera avec nous pour le projet Quadriptyque.
On vient de le dévoiler à nos auditeurs.
Voilà!
On dirait. Merci beaucoup, France Geoffroy. 2 et 3 juin prochain, on le rappelle, raconte-moi un souvenir. On vous souhaite un bon succès. Bonne fin de répétition. Bonne rentrée en salle. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi, Maxime. Bonne journée.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clé CVLD ou sur Twitter, @canal_m. On parlait en début d'émission d'adaptation de cuisine avec la compagnie Zirka. Il y a plusieurs autres entreprises qui s'engagent aussi à rendre la vie plus facile aux personnes avec des limitations fonctionnelles. Et c'est le cas de TVR Technologies à Repentigny, qui offre l'adaptation de véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone M. Francis Maheu, propriétaire de TVR Technologies. Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien vous-même?
Tout le temps bien, ça peut jamais mal aller. On n'a pas le choix.
On aime ça, quelqu'un d'optimiste comme vous. Monsieur Maheu, TVR Technologies, présentez-nous, faites-nous un portrait de votre entreprise.
TVR Technologies, au départ, a été fondée par deux personnes qui ont décidé d'avoir une vision, fabriquer des ambulances. Puis, voilà 20 ans de ça, parce que l'entreprise, ça fait 20 ans qu'elle existe. On a fabriqué des ambulances à peu près pendant 5 ans. La compétition était féroce, mais les gens savaient qu'on fabriquait des ambulances. Ils venaient nous voir avec des véhicules adaptés. Êtes-vous capable de les réparer? Pouvez-vous en faire? Fait que de fil en aiguille, on a délaissé les ambulances pour se concentrer beaucoup plus sur l'adaptation de véhicules pour personnes à mobilité réduite.
Et ça fait combien de temps que vous vous spécialisez dans cette
branche? L'entreprise, en soi, ça fait 20 ans qu'elle existe, peut-être 17 ans qu'elle fait des véhicules pour personnes à mobilité réduite. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai racheté l'entreprise de l'ancien propriétaire.
Oui, allez-y. Oui. Ben, est-ce que vous avez, vous parliez au début que ce marché-là de fabriquer des ambulances, c'était très compétitif. Est-ce que vous avez trouvé un autre créneau et est-ce qu'il y a moins de compétition?
Non,
de quoi a l'air le marché?
Le marché en soi, au Québec, j'ai pas fait de recensement. On travaille beaucoup avec la SAC, la RAMQ et la CSST. Puis ils nous disent qu'en moyenne au Québec, il y a à peu près 19 entreprises qui adaptent les véhicules, mais seulement 9 qui font des conversions majeures, qu'on veut dire structurales, avoir une personne qui conduit sans ses bras, seulement avec ses pieds, ou une personne qui n'a aucune jambe qui va conduire seulement avec ses mains. On est à peu près 9 entreprises qui couvrent le Québec au complet pour faire les adaptations. Il y en a beaucoup dans le même secteur. Sinon, après ça, ça s'éparpille un peu partout dans le reste du Québec.
Et justement, si on parle d'adaptation majeure, comme vous êtes en mesure d'apporter, qu'est-ce que ça peut inclure, par exemple, si juste pour qu'on se fasse une image mentale de votre véhicule?
Ben en soi, si on arriverait avec une personne qui est en fauteuil motorisé, qui n'a aucune possibilité de se transférer lui-même à cause d'une faiblesse des membres supérieurs ou peut-être un handicap en plus d'avoir les deux jambes qui ne fonctionnent pas, c'est le plus vendu en soi, c'est la Dodge Grand Caravane. Les gens nous apportent la Dodge Caravane. On fait un abaissement de plancher. On abaisse le plancher en moyenne à peu près de 6 à 10 pouces. On coupe le plancher, on fait une nouvelle structure sous le véhicule, on met une porte motorisée, on motorise une rampe. Fait que la personne, par la suite, appuie sur un interrupteur. La porte ouvre automatiquement, une rampe se déploie vers le sol. Après ça, ça fait le pont entre le véhicule et lui. Il rentre dans le véhicule. Par la suite, s'il a besoin de conduire assis dans son fauteuil, on installe des ancrages au sol automatiques pour qu'il vienne s'enfiler, un peu comme un 10 roues pin, ça fait fouille. Puis, il va s'installer derrière le volant. On installe des relocalisations de fonction s'il y a une difficulté d'accès aux essuie-glaces lave-glace. On installe soit une boule ou soit des interrupteurs à proximité d'une de ses deux mains, en plus d'installer une commande manuelle pour conduire avec ses mains les freins gaz.
Est-ce que si après la personne se présente dans un garage régulier, est-ce que tout le monde
peut
comprendre?
Ouais, c'est toujours la fin du monde. Les garages de mécanique automobile sont comme pas habitués de voir ça. Aussitôt qu'il y a un problème avec le véhicule, c'est causé à cause de l'adaptation. Fait que dans ce temps-là, on dit à nos clients, quand vous allez voir votre concessionnaire, s'il y a des questions, dites-leur qu'ils nous appellent, on va les aiguiller. Les véhicules sont construits selon les normes de Transport Canada, puis en partenariat avec les concessionnaires automobiles. C'est juste que, mettons, Dodge Canada ne parlera pas à tous les concessionnaires Dodge au Québec, au Canada. Fait que là, faut que ça, c'est mon travail à moi puis aux autres techniciens de dealer avec les concessionnaires. Souvent, on finit par avoir les mêmes concessionnaires souvent qui rappellent. Fait que par téléphone, on finit par former les gars. Puis de fil en aiguille, ça vient de plus simple. J'ai des clients qui habitent dans le coin de Rouyn-Noranda. On s'entend qu'ils font pas Rouyn-Noranda à Repentigny à tous les fois, là. Fait que on parle au téléphone, on forme par téléphone, on envoie des plans et des schémas aux techniciens en place pour qu'eux autres soient capables de faire du troubleshooting pour nous aider à aiguiller la problème.
Est-ce que vous êtes propriétaire de l'entreprise, vous réfléchissez à cette question-là de liberté en fait pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce que justement est-ce que vous réfléchissez à ça d'avoir un volet formation, d'aider à ce que ça soit plus connu, que ce soit une réalité qui soit plus connue?
Présentement, quand j'ai racheté l'entreprise, le site Internet, il est bien archaïque puis tout. Fait que j'ai mandaté quelqu'un à le refaire, puis j'aimerais ça faire un peu le site Internet comme on voit le Québec de haut, chacune des régions, avec tu cliques ta région, ça te dit ton point de service où aller voir pour savoir si tu es éligible à l'adaptation. Parce qu'il y a comme trois catégories d'adaptation, les accidentés de la route, qui est la SAC. Il y a le programme d'aide aux véhicules qui est la RAMQ qui paye, mais qui est géré par la SAC. Puis il y a la CSST. La CSST, en soi, eux autres, ils niaisent pas. Si tu as un accident au travail, tu as une amputation, une paralysie, ils vont t'encadrer, ils vont te prendre en main de A à Z. Si, admettons, tu as un ACV puis tu as une paralysie complète du côté droit, fait que tu es plus capable de conduire avec ton pied droit, il y a des adaptations bénignes qu'on va faire, une pédale à gauche qu'on appelle. On va conduire avec le pied gauche un accélérateur qu'on relocalise à gauche, puis on a toujours le frein au centre. Mais ces gens-là, on dirait qu'ils sont dans le néant. Ils ont pas, ils savent pas où s'en aller. Des fois, c'est le personnel médical qui connaît pas ce milieu-là, fait qu'ils peuvent pas vraiment les aiguiller plus qu'il faut. Fait que je suis en train de refaire faire le site pour surtout aider le monde, essayer les points. Si vous êtes dans le coin de Saint-Jérôme, ça va être le bouclier de Saint-Jérôme. Si vous êtes à Joliette, ça va être le bouclier de Blainville. Si vous êtes à telle place, si vous êtes à Montréal, ça va être Constance-Lethbridge. Si vous êtes à Longueuil, ça va être le CMR de Saint-Hubert. Pour essayer d'aiguiller le monde à appeler. Parce que se faire payer une adaptation, oui, c'est gratuit, mais c'est long puis c'est ardu. Une personne qui veut voir un ergothérapeute dans le modèle public, là, ça s'est amélioré. Ils ont trouvé du personnel pour améliorer, mais son recul de 2 ans, il y avait une année d'attente avant de voir l'ergothérapeute. Après ça, l'ergothérapeute, vous la voyez, elle va vous parler de c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos attentes du programme. On va vous faire remplir des documents envoyés à la SAC, RAMQ, savoir si vous êtes éligible à payer l'adaptation du véhicule. Là, quand tout est autorisé pour faire une adaptation, mais là, l'ergothérapeute va faire des essais avec moi ou d'autres entreprises pour voir quelle adaptation qui est le plus conviviale pour vous. Puis là, ils vont demander des soumissions. On va faire les soumissions. L'Institut va avoir un 6 à 8 mois d'attente avant une autorisation. Puis par la suite, là, c'est la commande. Quand c'est des petites adaptations, c'est pas long. Quand c'est des majeures, c'est plus long. Mais ça, le moment 1 au moment 2, ça se peut s'écouler 2 ans et demi, 3 ans avant que le véhicule soit adapté.
Oui, ça, c'est 2 ans et demi, 3 ans qu'on empêche la personne de pouvoir
conduire.
C'est
ça. Moi, ce qui me touche le plus souvent, c'est peut-être mon côté, le seul côté de sensibilité que j'ai vraiment, c'est quand c'est des familles. T'sais, je peux pas croire qu'une mère d'un enfant qui a 3 ans, qui est handicapée, qui est en train de s'éreinter le dos, essayer de rentrer son enfant dans le véhicule, qu'il faut qu'elle attende quasiment 2 ans avant que son véhicule soit adapté.
Tout à fait. C'est une problématique, effectivement, auquel on pense moins.
On pense moins tant que ça nous arrive pas. C'est comme tantôt, j'avais une cliente qui est venue me voir, c'est nouvellement, là, ça fait pas longtemps, elle a eu un accident de moto, elle a eu une amputation, il faut qu'elle apprenne à vivre avec ça, puis là, elle se fait, tu sais, pitcher à droite et à gauche, mais tu sais, elle dit, tu penses pas à ça au début dans ta vie qu'un jour, tu vas avoir besoin de tous ces services-là. Mais comme là, elle vient me voir parce que je me spécialise dans ce que les autres veulent pas faire. Quand c'est trop compliqué, le monde aime ça, beaucoup faire du plug and play. Moi, j'aime ça, essayer de frapper un mur. Trouver la job la plus compliquée imaginable. Moi, on m'a toujours dit qu'il y a 1 million de façons d'échouer, une façon de réussir. Ça veut dire qu'il y en a une. Trouve-la.
Bien, en fait, je ne considère pas vraiment que vous frappez le mur plus que vous le défoncez.
Ouais.
Vous servez donc de référence aussi, d'information. C'est un de vos objectifs en développement.
Oui.
Sachant justement qu'il y a aussi plusieurs régions où est-ce que le transport adapté se rend plus difficilement parce que c'est des régions éloignées?
Oui, le Québec est étendu. Mais il se rend pas à l'heure.
C'est un autre débat. En terminant, Monsieur Maheu, est-ce que, justement, on parlait brièvement, il y a certains programmes qui aident à la subvention, notamment si notre condition change suite à un accident. Est-ce que toutes les personnes qui veulent faire une adaptation de véhicule, qui peuvent aller vous voir, vous consulter, vont être admissibles à une aide financière?
Pas nécessairement, parce qu'il y en a des gens que c'est la santé, mais pas encore assez selon les yeux du gouvernement, que votre condition n'est pas assez faible pour être payée. Mais tu sais, tu commandes deux chaises en ce moment-là. Fait qu'il y en a des fois qui viennent me voir, ils me disent « La SAC veut pas payer, t'as-tu des solutions à moindre coût? » Des fois, moi, il y a des gens que l'handicap change, fait que les appareils sont quasiment neufs, ils me disent « Est-ce que tu rachètes? » Le gouvernement veut pas me racheter des appareils usagés. Mais dans ce temps-là, je fais une banque d'informations, puis quand les clients viennent me voir, ben là, je leur donne les téléphones entre eux autres, puis allez les voir. Peut-être une fois sur deux, la personne qui a l'aide à mobilité gratuite va la donner gratuitement à l'autre. Des fois, il y en a qui sont l'appât du gain, on pourrait dire. Ils vont vouloir vendre des pièces qui ont été payées par l'État à une personne qui en a vraiment besoin. Ça, j'aime plus ou moins cette vision-là, mais tu sais, on n'est pas là pour taper ses doigts de tout le monde. Mais j'essaie d'aiguiller le monde pour avoir des adaptations à moindre coût le plus possible quand que c'est pas l'État. J'ai eu un monsieur de Sherbrooke divorcé que genre l'adaptation a été payée pour le côté de la mère. Fait que lui, il faut qu'il attende 5 ans pour son côté. Puis le véhicule n'est pas transférable avec l'enfant. Fait que là, il m'a demandé, t'as-tu une solution? Il était rendu avec une adaptation à peu près à 15 000 $ puis j'ai réussi à y faire de quoi pour 5 000 même pas.
Ouais, donc on voit que c'est vraiment la créativité, en fait, qui aide ça. Est-ce qu'une prochaine étape pour vous serait de passer à la fabrication de vos propres pièces?
Bien, j'aimerais ça. Le plus souvent possible, je l'en fabrique beaucoup, là, parce que souvent, c'est des pièces, j'appellerais standard, mais sont pas parfaites encore pour chaque personne. Parce que chaque personne handicapée a le même handicap, mais vivent différemment avec. Fait qu'ils ont toutes une petite technicalité à aller chercher. Que les produits exacts sont pas parfaits. Fait que moi, ma job, c'est toujours les fine-tuner pour que ça soit parfait pour ces personnes-là.
Bien, on vous souhaite vraiment une belle continuation, un bon développement dans votre entreprise. Francis Maheu, propriétaire de TVR Technologie à Repentigny, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bien, ça me fait plaisir.
j'en parlais en début d'émission. On commence déjà à parler de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui a lieu du 1er au 7 juin. Donc, ça commence la semaine prochaine. On va avoir une programmation spéciale, justement, à Canal M pour souligner cette semaine-là. Et j'ai mes premières invitées qui vont présenter quelque chose le 1er juin. C'est une présentation, en fait, c'est présenté par le mouvement Phase et c'est une conférence donnée par l'Initiative citoyenne Québec accessible et qui relatera en fait, qui fera un historique de la défense, du mouvement de défense des droits des personnes handicapées au Québec et aussi l'aspect important dont on parle de plus en plus, l'importance d'avoir une loi cadre sur l'accessibilité au Québec. Mes invités en studio, Maître Mélanie Bénard et Marie-Ève Veilleux, toutes deux cofondatrices de Québec Accessible. Bonjour, mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
J'aimerais d'abord qu'on prenne quelques minutes pour parler de Québec Accessible, qui se définit vraiment comme une initiative citoyenne.
Oui, c'est ça. On voulait se démarquer. Ben, en fait, on voulait faire différent du milieu conventionnel. Notre objectif à Québec Accessible, c'est vraiment de promouvoir les changements législatifs parce qu'on constate que les choses bougent pas beaucoup au Québec quand on parle d'accessibilité, mais accessibilité vraiment très large là, pour les personnes handicapées, tant accessibilité communicationnelle, accessibilité architecturale, accessibilité dans toutes les sphères de la vie, l'emploi, l'éducation, etc. Donc, notre initiative, c'est vraiment de créer ce mouvement-là pour demander une nouvelle loi, mise à jour, quelque chose avec Mélanie pourra en parler plus, des inspirations d'autres provinces, d'autres pays. C'est ça. Donc, c'est notre objectif.
Et vous êtes deux des cinq cofondateurs. Mm-hmm. Et il y a aussi Laurence Parent, mm-hmm. Qu'on a déjà reçue à l'émission ici, qui va présenter, elle, la moitié, elle est une des conférencières, en fait. Mm-hmm. Elle va présenter toute cette historique de défense, en fait, du mouvement de défense des droits des personnes handicapées, comment ça a évolué dans le temps. Est-ce que vous êtes quand même en mesure de nous en parler un petit peu aujourd'hui?
Oui, mais moi, je dirais certainement, ça fait un an que moi et Laurence, on se promène dans plusieurs organismes communautaires, plusieurs groupes du milieu associatif des personnes handicapées, puis on fait ces présentations-là pour justement expliquer un peu l'histoire de ce mouvement-là qui a commencé dans les années 70. Et Laurence présente sur... l'implication du mouvement dans le développement de la première version de la loi québécoise assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, qui a été adoptée en 1978. Alors, Laurence parle un peu des mémoires qui ont été déposées à l'Assemblée nationale dans les années 70 avant l'adoption de cette loi et la réaction de la communauté dans les années 70. Et par la suite, moi, je présente sur la mise à jour de la loi en 2004. C'est la version actuelle de la loi. Et je présente les lois qui existent ailleurs, entre autres en Ontario, avec la loi de 2005 pour l'accessibilité des Ontariens en situation de handicap. Et le Americans with Disabilities Act aux États-Unis qui a été adopté en 1990. Alors.
Et est-ce que depuis 1990, par exemple, est-ce qu'ils ont eu des mises à jour depuis ou c'est encore le même modèle?
C'est le même modèle. Il y a eu des amendements, je crois, en 2008, mais ça n'a pas vraiment changé la forme ou le modèle législatif comme tel. C'était vraiment des précisions par rapport à la définition du handicap, mais c'est une loi qui a vraiment, je crois, réussi à faire des changements réels dans la vie quotidienne des personnes aux États-Unis. C'est pas parfait, c'est ça qu'il faut toujours préciser. On comprend qu'une loi n'est pas nécessairement une panacée, ça va pas rendre le monde inclusif et accessible partout du jour au lendemain, mais je crois que c'est vraiment un outil important et un outil qu'on qu'on se doit de développer et d'utiliser au Québec.
La loi, justement, en vigueur au Québec, c'est la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
C'est ça.
Et selon vous, on est dû pour une mise à jour?
Oui, oui, je dirais bien sûr. Alors, la loi actuelle au Québec s'applique seulement au secteur public. Alors, contrairement à la loi ontarienne et la loi aux États-Unis, la loi en France et il y a d'autres exemples ailleurs aussi, il n'y a pas d'obligation pour le secteur privé. Alors, les entreprises, les boutiques, les restaurants, les choses comme ça, nous savons que plusieurs des obstacles dans la vie de tous les jours se retrouvent dans le secteur privé. Alors, je pense que c'est vraiment essentiel que notre loi impose des obligations au secteur privé. Et présentement, on n'a pas d'échéancier dans notre loi actuelle. Il y a vraiment, les organismes publics doivent développer des plans d'action annuels, mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de pénalité si les organismes ne soumettent pas de plan. Il n'y a pas d'obligation d'assurer la mise en œuvre des plans et il n'y a pas vraiment de date précise à laquelle les lieux et les services doivent être rendus accessibles. Alors, c'est vraiment, c'est vague, c'est flou, c'est un peu plus comme une politique qu'une loi parce que la loi n'a pas de dents.
C'est la raison pourquoi, Marie-Ève, vous revendiquez en fait pour une loi cadre.
Absolument. On demande, dans le fond, que le Québec adopte une loi qui, justement, a beaucoup plus de mordant pour voir des changements réels. Ouais.
Et est-ce qu'il y a, avec Québec Accessible, vous faites différentes rencontres, justement, dans le milieu associatif ailleurs. Est-ce que les gens sont au courant de leurs droits?
Malheureusement, non. C'est ça qu'on réalise. Les gens ne sont même pas au courant qu'on a cette loi qui a été adoptée en 1978 et qui a été amendée en 2004. Alors, les gens qui travaillent dans le milieu depuis un certain temps sont peut-être au courant, mais la majorité des gens, même des personnes handicapées, c'est ça, sont pas au courant que la loi existe. Il y a la possibilité au Québec de porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse si on subit de la discrimination. Mais encore une fois, c'est un processus que pas tellement de gens connaissent ou utilisent et c'est un processus qui n'est pas nécessairement super efficace en termes de délai. Ça peut prendre des fois comme 3 ans pour faire l'enquête après qu'on dépose une plainte. Alors, je pense que c'est la première étape pour Québec Accessible, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et de l'éducation, justement, pour que les gens comprennent quels sont leurs droits et c'est ça, quelles sont d'autres options, d'autres solutions possibles pour essayer d'améliorer les outils au Québec.
Justement, quelle est la différence entre cette loi québécoise et les autres lois qu'on a comme qui sont contre la discrimination?
Mm-hmm. Ça serait une approche complètement différente, à mon avis. Ça serait, parce que présentement, on a la Charte québécoise et la Charte canadienne. Les deux s'appliquent au Québec, mais c'est les individus qui doivent porter plainte à la Commission des droits à chaque fois qu'ils rencontrent un obstacle. Et comme on le sait, il y a des obstacles partout. Et comme j'ai mentionné, il y a des délais assez importants après qu'on porte plainte pour essayer de trouver une solution avec la Commission des droits de la personne. Alors, nous, on revendique un modèle législatif où ça serait un organisme indépendant qui assurerait la mise en œuvre de la loi. Ça existe en Ontario et aux États-Unis où c'est cette instance-là qui ferait des inspections et qui pourrait imposer des pénalités. Comme ça, le fardeau ne serait pas sur les épaules des individus.
Tout
alors, ça serait plus comme proactif comme solution, mais ça serait pas de... On continuerait à utiliser la charte aussi. C'est comme j'ai dit, c'est des outils. Alors, si on peut avoir plus d'outils, je pense que
c'est bénéfique.
C'est exactement.
Sachant aussi que, justement, ces procédures-là sont énergivores, sont chronovores.
Oui.
Il faut avoir les ressources, le temps et l'énergie
exactement.
Pour pouvoir les mettre en œuvre. Je vous amène sur un autre terrain. La France a voté une loi de ce type il y a plus de 10 ans. Et le gouvernement continue de voter des délais. des dérogations, des exceptions. On assiste aussi à, des, à certaines campagnes un peu de salissage ou de peur par rapport à la, l'application sur la loi sur l'accessibilité, comme quoi ça peut mener à des fermetures de commerce. Bon, ça peut nuire... au travail des médecins, à ce type de choses qui va transformer, détruire des centres-villes. L'application tarde toujours. Cette loi-là semble avoir ses limites. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est déjà capable de voir au Québec avec la loi cadre qu'on revendique, qu'on n'aurait pas? On essaie d'éviter ces problèmes-là?
Je pense que, dans le fond, l'adoption d'une loi... quelle qu'elle soit, je ne vais pas arrêter le besoin de revendiquer ou d'essayer de changer la manière dont on parle du handicap ou de la manière on a eu au Québec une histoire avec la terrasse sur pile, avec l'espèce de restaurateur qui pleurait dans les médias.
L'année passée et on en aurait entendu parler cette année.
C'est ça, donc c'est des choses qui vont venir sur le sujet. Donc, je pense que tout le monde a aussi un rôle à jouer, justement, les personnes handicapées, les organismes parler du handicap, les journalistes, etc., pour justement remettre les pendules à l'heure. Puis évidemment, avec une loi, ça ne va pas tout régler les problèmes, comme on le dit. Évidemment, le milieu va devoir continuer. Oui.
Qu'est-ce qu'on verrait comme impact au niveau, par exemple, du code du bâtiment? On parle du fait que ça nous en prend une pour justement moins rencontrer d'obstacles dans le secteur privé. Qu'est-ce que ça apporterait? Qu'est-ce qu'il y aurait? On parle de proactivité. Qu'est-ce qui serait mis en œuvre? Quelques exemples concrets, rapidement.
Mais ça serait, je pense, encore une fois, la première étape, c'est l'éducation. C'est la formation des architectes, de tous les gens impliqués dans le milieu de la construction, et pour que ça soit obligatoire. Parce que malheureusement, c'est censé être fait. Il est censé avoir des normes dans le code du bâtiment qui ne sont pas assez strictes, mais même les normes qui sont là ne sont pas respectées. Alors, c'est s'assurer que la formation se fasse comme il faut à l'intérieur de l'ordre et de continuer à s'assurer que les inspections et que l'application soient faites, non seulement de changer les règles, mais de s'assurer que les règles soient respectées. Et juste peut-être terminer sur ça, on a parlé récemment avec l'avocat qui a travaillé très longtemps, très fort pour faire adopter la loi en Ontario. Et quand on lui a posé la question, mais c'est ça, ça ne va pas tout régler les problèmes, fait que, qu'est-ce qu'on répond quand les gens nous posent cette question-là? Il a dit, mais on a des lois qui interdisent des meurtres au Canada. Il continue à avoir des meurtres, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir une loi qui interdit des meurtres? Non, ça veut dire qu'il faut l'avoir quand même.
C'est tout un parallèle, tout de même à créer. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été ici. Mélanie Bénard, Marie-Ève Veilleux, cofondatrices toutes deux de Québec Accessible. Bonne conférence la semaine prochaine, le mercredi 1er juin, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Je remercie mon équipe technique, Jean-Sébastien Laliberté, Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.